ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence.
Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, oui, nous voilà. Alors, notre programme de ce soir, tout de suite, les nouvelles qui seront suivies à 19h par Canicule, le quart d'heure, voire la demi-heure lesbienne, sur Radio Pleine Lune, 93.8 MHz. Et Canicule sera suivi après par le Memento, les rendez-vous de cette semaine qui sont préparés par Marjolaine. Radio Pleine Lune, onde femme 93.8 MHz. D'abord, nos nouvelles. À Genève, le comité contre le harcèlement sexuel continue sa campagne contre le médecin qui est accusé donc de harcèlement sexuel. Le comité a organisé une conférence de presse. Je vous la retransmets.
Si nous avons convoqué cette conférence de presse, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, donc, cette affaire dure maintenant depuis très longtemps, puisque le Conseil d'État tarde à prendre une décision. Vous savez qu'il a à plusieurs reprises différé le moment de cette décision, et qu'on peut dire que ça fait pratiquement une année, voire plus d'une année, que le problème est connu de l'autorité publique et que, pour l'instant, la décision n'est toujours pas tombée. Inutile de vous dire que le fait que cette affaire perdure, en l'absence de décision du Conseil d'État, génère des tensions toujours plus pénibles et insupportables, au premier chef pour les femmes plaignantes, mais également pour le reste du personnel et bien sûr pour le bon fonctionnement du service concerné. Cela nous conduit cependant à penser, puisque la décision du Conseil d'État tarde, que cette même décision ne serait maintenant beaucoup plus se faire attendre et qu'elle devrait donc être relativement imminente. C'est donc la deuxième raison pour laquelle nous faisons cette conférence de presse. Cette affaire ayant mis en évidence par ailleurs les carences réglementaires en matière d'atteinte à la personnalité et singulièrement en matière de harcèlement sexuel, nous savons qu'une nouvelle procédure administrative est en cours d'élaboration pour traiter justement ces problèmes. Cette affaire et la décision que va prendre le Conseil d'État, de ce fait, présente un caractère d'exemplarité, et aussi bien d'ailleurs pour le secteur public que pour le secteur privé. Il ne suffit pas de la mettre en place si par ailleurs la décision du Conseil d'État ne témoignait pas de sa capacité de prendre en compte et d'écouter les femmes qui se plaignent. Parce que si on ne peut pas écouter les femmes qui se plaignent, on n'aura d'ailleurs même pas à utiliser la procédure. Dans le cas contraire, je crois que le Conseil d'État prendrait une très lourde responsabilité, parce que si une dizaine de témoignages de femmes, que ce soit des femmes membres du personnel, que ce soit des femmes qui sont des voisines, que ce soit des femmes qui ont été des patientes, si ces témoignages nombreux ne sont pas pris en compte, la responsabilité du Conseil d'État serait très grave, parce que je crois qu'il deviendrait extrêmement difficile à l'avenir pour des femmes. C'est déjà difficile aujourd'hui, mais je crois qu'il serait extrêmement difficile à l'avenir pour des femmes d'oser porter plainte pour harcèlement sexuel, de peur de ne pas être entendues, et surtout de peur de victimes de devenir accusées à leur tour. Il y a de nouveaux témoignages qui viennent corroborer les premiers témoignages. Et chose ultime, pour que cette affaire soit bien présente dans la tête de tous et de toutes, nous avons mis sur pied un livre noir qui vous sera également présenté tout à l'heure.
Alors, ce livre noir qui donne en clair le nom du médecin incriminé, puisqu'il s'agit du docteur Dubulot, chef du service médical du service de santé des employés de l'État. Le docteur Dubulot donc est mis directement et en accusation dans ce livre noir qui regroupe les différents témoignages arrivés au Conseil d'État au jour d'aujourd'hui.
Tous les témoignages qui figurent dans ce livre sont à connaissance du Conseil d'État qui a reçu les lettres directement. Et le comité a jugé utile de le divulguer, notamment pour montrer sur quelle base, entre autres, le Conseil d'État va se fonder. Du point de vue du livre, seuls 12 témoignages figurent à l'intérieur. Une femme ayant choisi, préféré de ne pas rendre publique son histoire. Dans les témoignages, il y en a donc 8 qui ont été compris lors des 2 enquêtes successives. Il s'agit des 4 plaignants, de la voisine, de l'ex-employé de service qui a travaillé dans les années 80 et d'un collègue qui a fait état des confidences qu'il a eues des femmes du service, qui a senti l'atmosphère et qui a jugé utile d'en parler. Et le restant correspond donc aux nouveaux témoignages qui ont été des démarches successives tout au long de la campagne qui s'est faite. Du point de vue des questions de fond que soulève ce livre et ces témoignages, c'est que dans le cas concret, on aimerait rappeler, donc, comme l'a dit ma collègue, que ce ne sont pas des faits banals et de simples signes d'affection, comme on a entendu le dire, dans tous les cas pour les femmes concernées. Que c'est un choix délibéré que ces femmes ont fait de témoigner, en choisissant de ne pas entrer dans le jeu du service, qui était celui de proposer aux femmes de changer, d'obtenir un transfert et d'être soutenues pour ce transfert. Donc ça, c'est un élément qui est très important par rapport à la crédibilité de cette affaire. Et elles ont donc décidé de faire cesser ce genre de pratique. Et puis c'est une pratique effectivement qu'on rencontre fréquemment dans ce type de problème de mœurs, surtout quand on est dans un système hiérarchique. Sinon, pour terminer, on peut dire que ces femmes ont choisi aussi de s'exposer publiquement. On a choisi les médias parce que la procédure en cours ne paraissait pas satisfaisante aux yeux de tous. S'exposer publiquement, ça signifie être regardé par les autres, être méprisé, supporter certaines médisances à la fois au niveau professionnel, des médisances plus ou moins fortes, plus ou moins agiles, et dans le cadre de leur environnement en général, dans leur vie privée.
Alors, Une autre nouveauté aussi, c'est donc un 13e témoignage. Une femme qui a écrit en janvier, elle a réalisé qu'il s'agissait du docteur Duboulot suite à des articles et à la télévision et dans la presse. Et en janvier, elle décide d'écrire au comité contre le harcèlement sexuel ainsi qu'au Conseil d'État. Écoutons maintenant son témoignage.
C'est au niveau chronologique, ce qui m'est arrivé, ça s'est passé fin 80 ou début 81. C'était au tout début de mon engagement pour l'enseignement. Et inutile de dire que je ne connais absolument pas les secrétaires ou les autres témoignages. Et je crois comprendre que ça s'est passé avant les fêtes qui sont reprochées à M. Duboulot. C'était avant 84, quoi. Donc il y a cet aspect, et il y a un deuxième aspect qui explique un peu le silence des femmes, c'est le fait que tout de suite j'ai eu une réaction, bon, pas assez violente à mon goût, lorsque le fait s'est passé, il a voulu me prendre par derrière, et bon, je me suis rhabillée en le jetant loin de moi, mais je m'en suis toujours voulu de ne pas l'avoir tapé, et je pense qu'on se rend compte quand même qu'on ne fait pas le poids. C'est que tout de suite, il y a eu ce chantage où M. Duboulot m'a dit que je ne pourrais pas être nommée si, bon, il ne m'a pas dit si je ne me laissais pas faire, mais c'est si mon dos n'était pas en parfait état, parce qu'une enseignante qui enseigne le dessin ne peut pas enseigner si elle a mal au dos. Et là, bon, j'étais confiante dans mon dos, vu qu'il m'avait fait pencher au moins 15 fois devant lui. Donc, comme n'ayant aucune douleur, apparemment, j'ai mis un peu de temps, mais j'avais vu la moulure. Mais j'ai pas du tout aimé cette pression, et j'ai reçu une autre convocation l'année suivante pour la nomination. J'ai refusé d'y aller. J'ai posé un lapin, je ne suis pas allée au rendez-vous, et j'ai reçu de nouveau au collège, je crois, un téléphone de la secrétaire, et j'ai expliqué à la secrétaire pourquoi je ne voulais pas y aller. Là, il n'y a pas eu de question, j'avais le sentiment que tout le monde était déjà au courant, donc j'avais l'impression que c'était une chose courante, et puis j'ai dû aller pour être nommée, donc j'ai quand même dû aller retourner à une consultation, et j'ai été chez son collègue, et son collègue ne m'a posé aucune question. Je lui ai dit, vous savez que j'ai pas été au rendez-vous avec M. Duboulot. Ça a été donc déjà en 81, donc c'était l'année suivante, donc fin 81, il y avait un silence tacite, enfin qui m'a paru comme étant tacite, où aucune question ne m'a été posée, pourquoi je refusais d'aller retourner voir M. Duboulot. Et puis, il y avait une deuxième pression qui a été faite, c'est que moi, j'ai voulu chercher des candidates aux études pédagogiques qui avaient passé entre les mains de M. Duboulot. J'ai demandé à mon directeur, que je ne connaissais pas bien, donc qui venait de m'engager, de me dire des noms de candidates. Et ce directeur a refusé net de me dire des noms de femmes qui venaient d'être examinées par M. Duboulot. Et ma conseillère m'a dit que c'était un cas exceptionnel. Il avait l'air de convaincu que j'étais peut-être la perle rare. Bon, ça, c'était pas du tout mon avis, parce que je restais convaincue que ça se passait avec beaucoup de femmes. Et là, il m'a conseillé vivement, c'est-à-dire en mettant les points sur les i, qu'il fallait pas que je fasse du foin et que je me taise et que ça allait passer comme ça. Donc,
autre événement, c'était à midi, le mercredi 27, donc aujourd'hui même à midi, une manifestation appelée par le comité de solidarité aux plaignantes dans cette affaire, petite manifestation qui s'est déroulée à midi devant le Conseil d'État qui siège aujourd'hui, et on imagine qu'il est en train de discuter de cette affaire. Une soixantaine de personnes se sont réunies. Écoutons Valérie Boux du syndicat Le Site expliquer le pourquoi de l'action.
Ce n'est plus décent de se poser la question combien en faudra-t-il encore pour qu'on les croie enfin. Le médecin-chef et son avocat développent la thèse du complot et tentent par tous les moyens de jeter le discrédit sur les plaignantes. C'est une défense classique, mais cette thèse ridicule ne tient pas. À l'exception des employés qui travaillent encore dans le service, la plupart des femmes qui ont témoigné ne se connaissaient pas auparavant. Les faits se sont produits entre le début des années 80 et 1991, et la plupart des femmes qui ont récemment témoigné ont réagi à la suite de l'apparition de cette affaire dans les médias. Nul doute qu'elles auraient préféré ne pas avoir à se remémorer ces épisodes pénibles, traumatisants et humiliants. Cela fait déjà un an que ces faits ont été dénoncés et aucune décision n'a été prise jusqu'à aujourd'hui. C'est trop, beaucoup trop. La situation n'est plus tenable pour les plaignantes qui se retrouvent dans le rôle d'accusées et qui sont quotidiennement dans un climat pourri au sein de leur service. La majorité des collègues des plaignantes s'est désolidarisée, sans doute par peur. D'autre part, le harcèlement sexuel au travail est une réalité ignorée, banalisée et qui dérange. Ce genre d'attitude de la part des collègues, nous l'avons déjà observé dans d'autres affaires de harcèlement sexuel, comme à Mulebar ou à Guéfrère par exemple. Convaincus par le témoignage des femmes qui ont courageusement osé parler, dénoncer leur chef hiérarchique et se défendre, nous demandons que le médecin-chef soit immédiatement écarté de son poste. Il en va de la crédibilité du service et de la confiance des fonctionnaires et des futurs patients. Nous l'avons dit, l'enquête administrative est inadéquate pour une affaire ayant trait à l'atteinte à la personnalité. Les plaignantes n'ont jamais pu consulter le dossier de l'enquête, car elles sont considérées comme témoins et non pas comme parties à la procédure. En revanche, le médecin et son avocat ont eu accès au dossier et ont assisté aux dépositions des témoins. Il y a deux poids, deux mesures. Actuellement, les bruits les plus fous circulent dans la République, les plaignantes sont accusées par le médecin de mensonges, etc. Nous demandons que les plaignantes et leurs conseils aient accès au dossier de l'enquête pour avoir une réelle possibilité de se défendre. D'autre part, nous demandons qu'une loi soit promptement mise en place pour que dans le futur, les cas de harcèlement sexuel dans la fonction publique soient rapidement et correctement traités. L'ambiguïté et le manque de détermination des autorités cantonales dans cette affaire sont désastreuses et desservent la lutte contre le harcèlement sexuel. De nombreuses femmes, dans la fonction publique comme dans le privé, subissent actuellement des comportements de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail. Les tergiversations du plus important employeur de la place découragent celles qui souhaiteraient se défendre d'entreprendre une quelconque démarche. Que dire des femmes qui sont totalement isolées dans une petite entreprise et qui n'arrivent pas à glaner d'autres témoignages allant dans le même sens? Cette situation, nous la rencontrons fréquemment dans les syndicats, au comité contre le harcèlement sexuel. Mais isolée, une femme a droit au respect de sa dignité. C'est un droit fondamental que le Conseil d'État doit défendre clairement et nous sommes là aujourd'hui pour exiger qu'il se décide enfin. Bon, nous allons immédiatement aller porter une lettre au Conseil d'État. Dans cette lettre, nous allons expliquer les raisons de cette manifestation et puis nous allons y réitérer nos demandes, à savoir l'accélération de leurs décisions et l'accès au dossier.
Wohl unserer Weiblichkeit.
Hier, en date du 26 janvier, un comité de soutien aux fonctionnaires d'État accusés donc de harcèlement sexuel s'est constitué. Ceci, dit le communiqué, je cite, pour éviter que l'opinion publique ne s'égare en transformant la lutte contre ce phénomène en une prise de position contre un haut fonctionnaire. Le comité en question représente des personnes qui connaissent les qualités humaines et morales de l'accusé pour appartenir à la même paroisse que lui. Guerre en ex-Yougoslavie, viol confirmé. Le rapport d'enquête de la Commission européenne présenté à Genève. 300 enfants sont déjà nés des viols et plus de 2000 femmes sont enceintes, a déclaré hier Anne-Marie Lizine qui présentait aux Nations Unies le rapport de la communauté européenne sur les viols des musulmanes dans l'ex-Yougoslavie. Confirmant le rapport précédent de la communauté européenne qui faisait état de 20 000 viols et de retour d'une mission en Croatie et en Bosnie, Anne-Marie Lizine a surtout mis en évidence la difficulté de gérer ce problème. En Croatie, l'improvisation est encore la règle. La loi ne précise pas qui est en charge de ces enfants. dont la mère est musulmane, née des viols. Les agences caritatives et le gouvernement de Zagreb se renvoient la responsabilité. Autre problème, l'attitude des musulmans, qui tend à exclure les femmes violées de leur société. Toutefois, se félicite Anne-Marie Lizin, le mufti de Zagreb a entamé une explication auprès des musulmans pour qu'ils ne rejettent pas leurs femmes après le viol. Bien que le rapport européen s'intéresse essentiellement aux femmes musulmanes, il précise toutefois que des femmes serbes et croates ont elles aussi été victimes des mêmes exactions, même si ce n'est pas sur la même échelle. Selon Anne-Marie Lizin, la communauté européenne doit maintenant contribuer à mettre en place un réseau d'informations pour des femmes le plus souvent isolées, parfois carrément coupées de leur communauté d'origine. La représentante de la communauté a aussi appuyé l'idée sur laquelle travaille l'ONU de créer une agence d'adoption pour les bébés refusés par leur mère. En outre, elle a demandé une extension du mandat des observateurs de la communauté européenne qui jusqu'ici n'ont jamais collecté d'informations ou de témoignages sur les viols. Le rapport présenté aujourd'hui aux Nations Unies va être transmis au tribunal des crimes de guerre qui est en voie de création à Genève. Je vous rappelle qu'à Genève, trois associations féminines, Femmes pour la paix, L'avenir est notre affaire et Femmes en noir, demandent que les viols systématiques soient compris comme crimes contre l'humanité et jugés en conséquence. Il faut que les coupables, non seulement les violeurs, mais aussi toute la chaîne des responsables, soient jugés, estime-t-elle. Et cela par un tribunal international issu de la Commission des droits de l'homme. Estimant que le viol a été érigé en arme de guerre dans le cadre de l'entreprise de purification ethnique, le mouvement Femmes pour la paix a adressé une lettre au co-président de la conférence sur l'ex-Yougoslavie. Protestant contre le génocide de la population musulmane en Bosnie-Herzégovine, l'association y rapporte le nom de plusieurs responsables des crimes commis, cités par des témoins, pour demander leur comparution devant un tribunal international. Des nouvelles manifestations sont prévues, parmi lesquelles un rassemblement de tous les mouvements féminins européens à Zagreb le 7 février prochain. De plus, les organisatrices sont décidées à renouveler leur action tous les premiers et troisièmes jeudis à Genève à 18h15 devant le temple de la Fusterie. Et ceci jusqu'à ce que le tribunal international réclamé voit le jour. Portrait de Dominique Voynet, militante dirigeante des Verts français. Le rayon vert, c'est elle, parce que son ascension chez les Verts est aussi fulgurante que le tracé d'un rayon laser. En 3 mois, Dominique Voynet s'est taillé la première place sur les écrans télé et à l'intérieur du parti face à son rival Antoine Wächter. Son raid éclair à l'intérieur du parti écologiste lui a valu d'être parmi les 4 signataires de l'accord passé le 17 novembre entre les Verts et Génération Écologie. Un accord historique puisqu'il enterre la hache de guerre entre les deux partis frères-ennemis. Pour la première fois, des candidats écologistes uniques se présenteront aux élections de mars, donc en France, avec pour consigne, autre nouveauté, de ne pas se désister au second tour. Sans Dominique Voynet, la fusion n'aurait pas pu se faire. La nouvelle égérie des Verts reste une inconnue célèbre. À 24 ans, son parcours ressemble à celui de nombreux militants écologistes et témoigne de leur métamorphose. Elle vient de l'Est. Elle est jurassienne. À 16 ans, cette militante de la nature, précoce, participe à ses premières manifestations contre la centrale nucléaire de Fessenheim et pour la protection des conifères de la forêt vosgienne. On est en 74. L'écologie politique vit sa préhistoire. Si elle a acquis un savoir-faire au cours de ses premiers combats antinucléaires, elle n'a pas de nostalgie pour cette période. Je passais des heures à essayer d'obtenir des rendez-vous avec des gens très importants qui n'avaient pour seul avantage sur moi d'être des élus locaux. Je me rendais compte qu'il était impossible de convaincre simplement par la pertinence de mes arguments, mais qu'il fallait peser aussi par son bulletin de vote. Dominique Voynet décide alors de soigner les personnes en faisant des études de médecine. À la base de mon engagement écologiste, je crois qu'il y a surtout une envie de rénover la citoyenneté, de rénover la démocratie, de participer. Elle s'interdit de jamais voter à droite. Pour Dominique Voynet, son militantisme puise dans une culture de gauche. C'est ce réflexe qui l'a conduit à voter non à Maastricht le 20 septembre, non à une Europe des riches, dit-elle, à manifester contre la guerre du Golfe, mais aussi à stigmatiser la dérive des socialistes après 10 ans de pouvoir. C'est pourquoi aussi elle défend le droit de vote aux résidents étrangers aux élections locales. Elle se bat pour la diminution du temps de travail à 35 heures hebdomadaires. La réforme figure au programme des Verts, tout comme des propositions sur le partage du travail sur fond de remise en cause du productivisme. Conseillère nationale régionale de Franche-Comté, conseillère municipale dans le Jura, Dominique Voynet habite dans cette ville de 32 000 habitants, loin des bureaux, des colloques et des salons. Les Verts sont plus près des citoyens, affirme-t-elle, davantage sur le terrain. Cette jeune femme, mère d'une adolescente, milite à SOS Racisme, dans un collectif de loi contre la chasse, dans une association agricole. Elle communique à son entourage l'envie de se battre pour ses idées. À la question « Pourquoi y a-t-il autant de femmes chez les Verts ?», voici ce qu'elle répond. « Les femmes n'ont pas forcément envie de s'engager dans des partis qui leur proposent des solutions toutes faites, des modèles du genre. Il faut encore davantage de compétition et de performance pour s'en sortir. Ce type de message ne passe plus auprès des gens qui sont au contact de réalités quotidiennes. En même temps, nous avons cette fameuse règle de la parité homme-femme pour tous les postes de responsabilité. Mais en pratique, aux législatives, on n'a malheureusement que 15 à 20% des femmes candidates, alors que les Verts français comptent 40% de femmes sur 6500 adhérents. En Suisse, un zéro positif et un séropositif est condamné à la prison. Son procès suscite la polémique. Que faut-il faire des séropositifs qui contaminent sciemment leurs partenaires? Depuis 1988, 5 personnes en Suisse se sont retrouvées derrière les barreaux pour ce motif. Hier, c'était au tour d'un tribunal argovien de condamner un homme à 2 ans de prison pour avoir transmis le virus VIH. À l'heure où la criminalisation s'intensifie, l'aide suisse contre le sida lance un appel pour abolir l'article qui permet la traque des malades. On l'a surnommé AIDS killer, tueur au sida, cet homme de 36 ans. Depuis le mois d'octobre, le tribunal de Muri en Argovie examine son cas. Une histoire particulièrement dramatique qui a provoqué la mort de 3 personnes et en menace une quatrième. Hier, le tribunal de Muri a donc condamné Kurt à 2 ans de prison, espérant ainsi enrayer cette moisson mortelle. Si elle n'est pas une première suisse, cette condamnation a déclenché une virulente prise de position de l'aide suisse contre le sida, l'ASS. Espérer juguler une épidémie avec des mesures coercitives est une illusion. Ce n'est pas en criminalisant que l'on éradique une maladie, mais en découvrant des moyens thérapeutiques, affirme le porte-parole de l'association, Michel Dante. Il faut abolir l'article du code pénal ou du moins ne plus l'utiliser. Il a été employé pour la dernière fois en 1947 au sujet d'une blénorragie et on l'a réactivé avec le sida. Pour d'autres maladies comme l'hépatite B, on ne l'utilise pas. Pourquoi s'acharner exclusivement sur la transmission du virus VIH, c'est injuste. L'émotion provoquée par l'affaire du Muri était forte, mais avec la multiplication des procès, les prises de position françaises et anglaises, et en se penchant calmement sur toutes les conséquences d'une criminalisation, nous sommes arrivés à la conclusion, dit donc le porte-parole de l'association suisse du sida, qu'en poursuivant cette voie, nous allions vers quelque chose d'intenable. Ces condamnations pourraient être contre-productives. Elles pourraient dissuader les gens de faire le test pour quelques procès de transmission. Combien de contaminations? 15 000? 20 000? S'interroge l'association. Une incitation à l'irresponsabilité lourde de conséquences qui ne résout en rien le problème. Pourquoi, malgré les campagnes de prévention, le préservatif se heurte-t-il à tant de difficultés psychologiques?